en prier. Oui, Père, merci, merci parce que tu nous as déjà parlé ce matin de ce qu'on peut venir à toi, parce que tout a été payé. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons nous désaltérer à cette source. Et Seigneur, permets que ces moments soient bénis aussi, que je puisse transmettre fidèlement ta parole. Aide-moi à le faire, Seigneur. Tu sais combien j'ai besoin de toi. Seigneur, toi aussi pour les enfants, pour qu'ils puissent recevoir ta parole. Seigneur, merci parce que tu veux encore nous parler. Béni sois-tu. T'en prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, la dernière fois que nous avons parlé, c'était dans Romains chapitre 9. Nous avons vu que le choix de Dieu à propos d'Isaac, de Jacob, nous avons vu aussi que Dieu fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Et on avait vu ce passage de Pharaon qui s'est endurci, et après Dieu l'a endurci. Et on avait pris comme exhortation, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et combien c'est important de ne pas endurcir son cœur, mais être toujours prêt à se laisser reprendre. Quand Dieu me parle, c'est une grâce. C'est une grâce quand Dieu me parle. Et rejeter quand Dieu me parle, c'est grave, parce que j'endurcis mon cœur. Alors, dans le passage que nous allons lire, c'est dans Romains 9, à partir de verset 30 jusqu'à Romains 10, verset 13. Alors, en lisant, je vous donne un petit exercice. Il y a un mot qui revient plusieurs fois. Et je vous poserai la question après qu'on aura lu le passage. D'accord ? On y va ? Donc, Romains 9, verset 30. Qui dirons-nous donc ? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce que Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en sillon une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel ? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme ? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc ? La parole est auprès de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quel mot qui est revenu plusieurs fois. Justice, oui. Il revient 10 fois. 10 fois en 17 versets. Donc on va parler de justice. Alors, le mot justice, on pense tout de suite à quoi quand on parle de justice? Tribunal, oui. La justice des hommes, faire justice. Vous savez, la justice des hommes, elle est variée, hein. Et ça dépend dans quel pays on est. Et ça dépend des époques. La justice, ça bouge beaucoup. Mais là, l'Écriture nous parle d'une autre justice. Cette justice, la justice de Dieu. D'ailleurs, dans le verset 3, ça revient deux fois, la justice de Dieu. Alors, vous savez, quand il y a des mots comme ça, et qu'on voudrait bien connaître la définition, c'est sûr qu'il y a le dictionnaire, mais il y a des mots qu'il faut prendre aussi dans le dictionnaire, on pourrait dire biblique, ou dans nos Bibles. Alors, dans les Bibles, normalement, à la fin, il y a un glossaire, il y a un dictionnaire, et il y a la définition. Donc là, je vais vous donner la définition qu'il y a dans ce dictionnaire, avec quelques références, parce que c'est important de bien comprendre cela. D'accord ? Donc, la définition, caractère de tout ce qui est conforme à la volonté et aux normes de Dieu. Ça, la justice. Caractère de tout ce qui est conforme à la volonté et aux normes de Dieu. Mais il y a un problème. Par nature, par sa vie et ses actes, l'homme est pécheur et injuste aux yeux de Dieu. Il y a un passage dans Job 25 qui dit « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur ?» Pas possible. L'homme est injuste par nature. Et on a déjà vu dans Romains 3, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a pas un seul juste. Personne sur la terre peut dire « Ah, moi je suis juste. » Aucun. Mais Christ, qui a été fait justice pour l'homme, ah, qu'est-ce que ça veut bien dire ? Lui, il était sans péché, mais il était condamné à la place du pécheur. Et à ce passage d'Ésaïe 53 que nous connaissons, mais il est bon de le rappeler, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà, Christ est venu pour payer le prix. Et d'ailleurs, il y a un autre passage qui dit que Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, pour nous. Pour nous amener à Dieu. Et un autre passage, il dit « Celui qui n'a point connu le péché, donc Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Voilà, la justice de Dieu, c'est Christ incarné. Ça, c'est formidable. Cette justice-là est uniquement en Jésus-Christ. Et c'est important de comprendre ça. Si je ne comprends pas cela, je peux être complètement, je suis complètement à côté de la plaque, comme disait Nicolas, hein, être à côté de la plaque. Je suis à côté de la plaque si je ne comprends pas que cette justice, c'est celle qui vient de Jésus-Christ, celle que Dieu donne. Alors c'est vrai que dans ce passage, je ne sais pas ce que vous avez remarqué, il parle, il démontre, voilà, que cette justice, on l'acquiert par la foi, mais dans ce passage, il y a des personnes qui essayent de la chercher. Et ils essayent de chercher cette justice par leurs propres efforts, en pratiquant la loi, en essayant de le plus possible de pratiquer cette loi pour dire « Mais si je pratique la loi à fond, je serai juste devant Dieu. » Et c'est ce problème-là qui est, on pourrait dire, développé dans ce passage. Alors, c'est vrai que c'est pas la loi qui va me rendre juste. Parce que la loi, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous montre le péché, exactement. Et d'ailleurs, il est dit dans Romains 3, 20, on l'a déjà vu, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la loi. La puissance du péché, c'est la loi. S'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de péché. J'ai connu, en fin de compte, le péché à cause de la loi. C'est ce qu'il est dit dans Romains 7, 7. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne m'avait pas dit « Tu ne convoiteras point ». Donc la loi, elle est là. Elle nous montre les normes de Dieu, la volonté de Dieu. Mais de l'autre côté, l'homme, face à ça, qu'est-ce qu'il doit voir ? C'est là où il doit voir sa faillite. C'est là où il doit voir « Ah oui, mais là, je suis complètement à côté. Je suis complètement à côté. Et je vois en moi quelque chose qui fait que je ne peux pas accomplir la loi à 100%. » Et il faudrait accomplir la loi à 100% toute notre vie, sans avoir jamais péché de notre vie. Pas possible, hein ? En plus, c'est pas possible parce qu'on est né pécheur. Donc il y a ce problème-là. Donc essayer de se rendre juste par la loi, c'est peine perdue. Si j'essaie de dire « Ah, je vais essayer de gagner la faveur de Dieu parce que je fais ça, je fais ça, je fais ça », c'est peine perdue. Alors, à quoi elle sert la loi, alors ? Oui, elle nous montre. Mais la loi, elle est là pour nous montrer notre incapacité, notre faillite, et nous amener à Christ. C'est ça qui est formidable. Il est dit dans Galates, ainsi la loi était comme un précepteur ou un guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. C'est ça. La loi, elle est là pour montrer notre faillite et dire, mais Seigneur, il n'y a rien de bon en moi. Je suis un pécheur. Je ne pourrai jamais atteindre le ciel. Je ne pourrai jamais, 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 même et tout ce que je peux faire, je ne pourrai jamais. Mais la loi me montre Christ, lui qui a payé le prix. Alors, l'apôtre Paul continue, il parle de ses frères, il dit, c'est vrai, ils ont du zèle, je leur rends leur témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Là, il parle des Juifs, des Israélites, ils disent, ils essayent, ils disent même que, oui, par tous leurs efforts. Et l'apôtre Paul, il sait de quoi il parle, parce que lui-même, avant d'être cet apôtre, lui-même, il était quelqu'un de très zélé. Zélé, il était pharisien. C'était quelqu'un qui essayait d'observer la loi au moindre détail et qui était même celui qui a persécuté l'Église. Et d'ailleurs, il fait tout un rappel dans Philippiens 3. Il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. » Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, voilà, déjà. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Lui, il a compris. Mais ses contemporains n'avaient pas compris. Ils essayaient tout. Ils essayaient de faire tout pour arriver jusqu'à Dieu. Et au verset 3, il dit, « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Les Juifs n'ont pas compris que Christ était l'incarnation de la justice divine. Ils n'ont pas compris. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé. C'est pour ça qu'ils étaient, même les pharisiens, vous savez, c'est des gens qui ont même rajouté à la loi de Dieu. Ils ont rajouté plein de lois, encore en plus. Et vous savez, l'homme religieux, le propre juste, il croit arriver par ses propres mérites, et c'est pour ça qu'il fait tout un catalogue, on pourrait dire, de tout ce qu'il fait. Il pense qu'il mérite le ciel comme ça. Et bien souvent, ces personnes-là sont imbues de leur personne et jugent les autres. Parce qu'ils se croient arrivés, ils se croient sans péché, sans rien, ils se croient presque parfaits. Et c'est pour ça que Jésus a donné cette parabole. Il a donné cette parabole dans Luc 18 où il dit encore cette parabole en vue que certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. C'est pour cela qu'il a donné cette parabole. Et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Voyez déjà. « Qui sont ravisseurs, injustes. » Moi, je suis juste. « Adultère, ou même ce publicain-là qui est à côté de moi. » Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et il aurait pu continuer. Il se croit juste. Comme dit le proverbe, il y a une race qui se croit juste ou pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Mais vous savez, on peut peut-être le montrer du doigt, mais hélas, les contemporains d'aujourd'hui, même peut-être, on peut tomber dans ce piège-là, encore aujourd'hui. On peut actualiser, dire « Moi, je lis ma Bible tous les jours, je vais à l'église, je prie, je donne des offrandes, je fais des œuvres. Bah, » c'est bon, hein. Et ça, c'est bien de le faire. Je vous encourage même à persévérer. Mais ça ne me donne pas le ciel. C'est pas parce que je fais ça que je mérite le ciel. Et bien souvent, des personnes croient en disant, ben si je fais ça tous les dimanches, si je viens à l'église tous les dimanches, si je lis ma Bible, si je prie, eh ben voilà, ben je suis sauvé, je suis bon pour le ciel. Ben non. C'est pas parce que vous faites ça que vous êtes sauvé, parce qu'il y en a qui le font. C'est pas ça qui nous sauve. C'est Christ seul qui nous sauve. C'est pas ce que nous faisons. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous sauve, c'est ce que Christ a fait. Il faut être clair par rapport à ça. Parce que beaucoup de personnes se trompent là-dessus. Ils se croient chrétiennes parce qu'ils font ces choses. Un chrétien le fait, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il a expérimenté la grâce de Dieu. Parce qu'il a expérimenté la justice de Dieu, parce qu'il a expérimenté le pardon de Dieu, parce qu'il a été réconcilié avec Dieu. C'est pour cela qu'il le fait, mais non pas pour gagner le ciel, parce qu'il l'a déjà. Donc c'est très très important, parce que vous savez, l'homme est tellement religieux et il croit qu'avec ce qu'il fait, il dit « Oh, je mérite le ciel, j'ai bien gagné mon salut ». Non, on ne peut pas gagner son salut comme ça, c'est impossible. D'ailleurs, dans Ésaïe, il dit le pourquoi. Nous sommes comme des impurs et notre justice est comme un vêtement souillé. C'est comme si tout ce que je pouvais faire de bien, je le fais avec des mains sales. Donc je mets la saleté partout. Imaginez-vous que vous êtes en train de faire un dessin avec des mains pleines de cambouis. Ah, ce serait affreux. Ou avec plein de suie, vous savez. Ça va partout, hein, la suie. Quand on ramène la cheminée, je peux vous dire que faut bien nettoyer après, ça se colle partout. Eh bien, on est comme ça. Donc, essayer de faire des choses, non, c'est pas possible. On a besoin d'être purifié. Et en plus, Jésus a dit une phrase là. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà lu dans l'évangile, et si ça ne vous fait pas réfléchir. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Waouh ! Alors en sachant que les pharisiens, ils avaient mis la barre haute, il dit, mais si vous ne surpassez pas ça, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Imaginez-vous, les personnes qui ont entendu ça, mais personne, personne. Ah oui, personne. Parce que l'homme ne peut pas. L'homme par nature ne peut être juste car il est pécheur. Très intéressant parce que Jésus ne s'arrête pas là. Il parle d'un publicain. Oh, alors le publicain. Le publicain, c'était un collecteur d'impôts. Et bien souvent, quand vous lisez dans la Bible, les publicains, il y a toujours une petite phrase qui suit à côté. Publicains et les gens de mauvaise vie. C'est souvent ensemble. Ah, on connaît l'histoire de Zachée, hein, quand à un moment donné, Jésus a dit à Zachée qu'il voulait rentrer. Oh, les autres qui étaient derrière. Quoi ? Il va aller chez lui ? Mais c'est un pécheur ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Donc vous voyez, un publicain, il n'avait pas bonne presse. Et on les montrait facilement du doigt. Mais c'est très intéressant ce que dit la suite. Regardez l'attitude de ce publicain. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur. » Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur. Voilà un candidat à la grâce de Dieu. Voilà un candidat pour avoir la justice de Dieu. Voilà. C'est le seul moyen pour qu'on soit candidat. Reconnaître notre état. Reconnaître que nous sommes misérables, que nous avons besoin du pardon de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus le dit. Jésus dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. J'aime bien aussi ce passage de Matthieu 5, 3, où il est dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, oh, les royaumes, ça veut dire quoi ? Alors, j'aime bien la version second 21, où il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Reconnaître qu'en fin de compte, je ne puis pas me sauver moi-même. Je ne peux pas. Je ne peux pas, même en faisant tout mon possible, de me sauver moi-même. Roche-Dieu dit ceci, ceux-là seuls sont sauvés, ceux qui se déclarent en faillite, débiteurs, insolvables. Parce que les œuvres que les hommes peuvent faire, glorifient qui ? Glorifient l'homme. Mais la grâce glorifie qui ? Dieu. Très intéressant. Les œuvres glorifient l'homme, mais la grâce glorifie Dieu. Et il n'y a que Dieu seul qui doit être glorifié. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Toutes les religions humaines poussent l'homme à tenter d'escalader le ciel en attachant mérite sur mérite, rite sur rite, sacrifice sur sacrifice. Seule la religion divine apporte la bonne nouvelle que Christ a tout accompli. Christ a tout accompli. Alors, je lis la suite dans Romains 10, versets 6 et 8, mais je le lis en paroles vivantes. Il dit ceci, le langage de la foi est tout différent. Pourquoi te proposer l'impossible ? Pourquoi vouloir escalader le ciel ? Le Christ n'est-il pas descendu ? Pourquoi tu essaies d'aller jusqu'au ciel ? C'est Christ qui est descendu. Parce que nous, on ne pouvait pas aller jusqu'au ciel. C'est impossible. On ne peut pas. C'est pour ça qu'il est descendu. C'est la seule raison pourquoi Jésus est descendu, c'était pour venir nous sauver. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas, même si j'essaye d'escalader. Alors bien souvent, il y en a qui imaginent en disant, mais j'arrive jusqu'à Dieu. Je fais un pas après l'autre, je marche une marche après l'autre, ou un échelon après l'autre. Mais non, ça ne marchera pas. Même si j'essaie de monter, je n'irai pas plus haut que moi le bout de l'échelle. Hein. Parce qu'on ne peut pas être sauvé. Christ est descendu. Pourquoi te demander qui ira dans l'abîme ? Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts ? Que dit donc la justice reçue par la foi ? La parole de Dieu est tout proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, il ne s'agit de rien d'autre que de la parole que nous annonçons, à laquelle il suffit de croire. Voilà. De croire à ce que dit la parole. La parole, elle est là. La parole est explicite. La parole nous montre que l'homme ne peut pas être sauvé, que Christ est venu, il est venu pour chercher les perdus, que Christ est venu pour payer à notre place, que Christ, il est mort, qu'il est ressuscité. Voilà, la parole, elle est là. Que cette parole dit que nul ne sera justifié devant Dieu par la loi, mais cela est évident puisqu'il faut que le juste vive par la foi. Le juste vivra par la foi. Et on l'a déjà vu ça dans Romains chapitre 1, au début. Il nous dit ceci, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Est-ce que je crois à la parole de Dieu ? Est-ce que je crois à la parole de Dieu ? Je vais plus loin, parce que bien souvent les gens... Il dit, ah, je crois qu'il y a un Dieu. Et il y a beaucoup de personnes. Ah, je crois qu'il y a un Dieu, je crois que Dieu existe. Oui. Mais est-ce que je crois à ce qu'il dit ? Est-ce que je crois sa parole ? Est-ce que je crois quand il est dit que Christ est mort pour nous, pour le pardon de nos péchés ? Est-ce que je le crois ? Est-ce que je crois que c'est par la grâce que je suis sauvé ? Et cela ne vient pas des œuvres, mais uniquement par la grâce. Est-ce que je le crois ? C'est important. Si je crois que Christ a tout accompli, a tout fait, et pas d'une façon intellectuelle, parce qu'il est dit, si tu crois cela dans ton cœur, est-ce que je le crois réellement ? Ou est-ce que je dis, bon, le Seigneur a fait une petite partie, moi je dois faire l'autre ? Ou est-ce que je crois que lui, il a tout accompli ? Et j'ai juste à saisir par la foi ce qu'il a fait. C'est important. Parce que si la base, si ça, c'est pas clair, vous êtes à côté de la plaque. C'est important. Alors, c'est sûr que on a besoin d'une révélation. On a besoin que Dieu touche nos cœurs. Mais est-ce que je laisse Dieu toucher mon cœur ? Et si je crois dans mon cœur, qu'est-ce que dit la parole ? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. L'importance de croire à sa mort, mais aussi à sa résurrection. Parce que bien souvent on parle de sa mort, mais on... Ouais, mais c'est important aussi de croire à sa résurrection. Pourquoi que c'est important de croire à sa résurrection ? Parce qu'on parle beaucoup de que Christ est mort pour nos péchés, mais c'est important aussi de croire à sa résurrection. Pourquoi ? Au moins deux passages, hein. Il est dit dans Romains 4, 25, il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité, pourquoi ? Pour que nous soyons déclarés justes. Donc c'est important. Et en plus, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Donc c'est important de croire à la résurrection. Si Christ n'était pas ressuscité, ben notre foi serait vaine et on ne serait pas déclarés justes. Donc important de croire qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et la Bible continue, dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit les Écritures. L'importance de croire et aussi de confesser, le dire. Vous savez, on ne le cache pas dans son cœur. Comme disait l'apôtre Paul, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et bien souvent, ça me rappelle une fois, j'étais avec quelqu'un où Tu dois annoncer l'évangile. Et puis je voyais qu'il était prêt à se tourner vers Dieu, mais bon, il n'était pas prêt à le faire avec moi, il préférait le faire tout seul dans sa chambre. Alors je lui dis, écoute, tu rentres chez toi, tout seul avec Dieu, tu demandes au Seigneur de venir dans ta vie, tu demandes pardon, tu demandes au Seigneur de venir dans ta vie, et puis après tu me téléphones et tu me le dis. Parce que c'est important de le confesser, c'est important. Il faut qu'il y ait un témoin. Et cet homme est parti, donc. Et puis, dans l'après-midi, bah, il a fait cette démarche. Et le soir, il m'a appelé en me disant, ça y est, je l'ai fait. Il est mon sauveur. Et c'est important. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh, je crois, mais je ne l'ai dit à personne. C'est important de croire. Vous savez, il y a des choses que nous le croyons, mais on ne l'a jamais dit. C'est un secret. Et ça m'est arrivé une fois, il y avait quelqu'un qui est venu me voir, et puis je lui ai posé la question. Qu'est-ce que tu crois réellement ? Et la personne, elle a commencé à dire ce qu'elle croyait, et au fur et à mesure qu'elle disait qu'elle croyait, je la voyais s'épanouir devant moi. Oh, c'était formidable ! Elle disait, et d'un seul coup, je la voyais rayonnante. Elle était heureuse, parce que c'était la première fois qu'elle le disait. Et c'est très intéressant. Cette expérience que j'ai eue, ça, je dis voilà, c'est important de croire dans son cœur, mais aussi de le dire. Alors des fois, on dit oh oui, mais j'ai peur, je suis timide, j'ai honte. Mais attendez, si le Seigneur vous a sauvé, si le Seigneur est vraiment dans votre vie, c'est lui qui nous donne la force de témoigner. C'est lui, parce qu'on dit voilà, il est mon sauveur, je peux le dire. C'est lui qui nous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse, hein. Et d'ailleurs, le Seigneur dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Croire et confesser vont ensemble, hein. Ça va ensemble, c'est pas... Voilà. Si je crois réellement, je dois le dire. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout à l'heure je vous ai dit de regarder le nombre de fois, un mot qui revient souvent. Mais il y a une phrase qui revient deux fois dans le passage. Est-ce que vous l'avez vu ? Il y a une phrase qui revient deux fois. Quiconque croit en lui ne sera point confus. On le voit dans le verset 33 du chapitre 9 et on le voit dans le verset 11 du chapitre 10. Quiconque croit en lui ne sera point confus ou point honte. Donc, pas de honte si je crois en lui. Je ne serai pas confus. Il le dit à quel moment ? Très intéressant, verset 33, il dit « Voici, je mets en sillon une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Il nous parle là d'un passage dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, qui nous parle de cette pierre. Une pierre qui est mise en sillon. Et cette pierre, ceux qui mettront cette confiance dans cette pierre, ne seront pas confus. Ceux qui étaient là, c'est ce mardi-là, où Baptiste a parlé de cette pierre, de ce rocher. Hein, on pourrait dire cette maison bâtie sur le rocher, le fondement, voilà. Même s'il y a toutes sortes de choses qui vont arriver, la maison résiste. Et c'est là aussi que nous savons que cette pierre, c'est Christ. Parce que lui-même, il le dit, qu'il est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. Et c'est ça le problème du peuple juif à l'époque de Jésus, c'est que ils l'ont rejeté. Et c'était le seul moyen pour eux d'être sauvés. En rejetant Christ, ils ont rejeté cette pierre qui, où ils pouvaient mettre leur fondement. Et c'est pour ça qu'il est dit dans 1 Pierre chapitre 2, je vous exhorte à le lire avec moi, 1 Pierre 2, verset 4. 1 Pierre 2, à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, la pierre vivante c'est Christ, hein, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, voilà, les chrétiens, en fin de compte, c'est des pierres vivantes, hein, édifiées pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Vous voyez, on revoit encore ce même verset, hein. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est là ce qu'ils sont destinés. Voilà, il dit voilà, il y a cette pierre, au lieu de la trouver comme un fondement pour pouvoir reposer leur foi, leur vie, cette pierre les fait trébucher, les fait tomber, et même cette pierre va les écraser un jour. Vous rendez compte? Donc, est-ce que j'ai mis ma confiance en Christ? Est-ce que j'ai mis ma confiance en lui? Ou est-ce que j'essaye en disant, je vais essayer? Alors, je vais vous raconter une histoire, il y en a qui l'ont déjà entendu, mais peut-être des fois, des images, ça parle. Il y en a peut-être qui ne la connaissent pas. Un jour, un artiste, un peintre, voulait faire un portrait d'un clochard. Ah, et puis il en a trouvé un. Formidable, j'ai mon modèle, je vais lui dire de venir. Donc il va voir le clochard et dit, écoute, j'ai besoin de toi demain. Tu viens, je te donne l'adresse et tu viens, j'ai besoin de toi. Ah, le clochard content. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le coiffeur et il fait tout pour être acceptable. Et puis il sonne à la porte du peintre, de l'artiste. Et puis l'artiste, il ouvre la porte et vous êtes qui? Il dit, mais je suis le clochard d'hier et tout ça. Vous m'avez dit de venir? Il dit, oui, mais moi je voulais que vous veniez comme vous étiez et pas comme maintenant. Et voilà, le Seigneur, il attend qu'on vienne tel qu'on est. Bien souvent, on dit, ah, oh, mais non, je ne suis pas prêt, il faut que je fasse ça encore, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse encore ça. Mais vous ne serez jamais prêt. Parce qu'il faut venir au Seigneur tel qu'on est, avec notre misère. Il n'y a que lui qui peut nous sauver parfaitement. Si j'essaye d'être mieux et meilleur pour venir à lui, ça ne sera jamais. Il faut venir tel que vous êtes. Et c'est formidable parce que le salut n'est pas simplement pour les juifs, il est aussi pour les païens. Et ce matin, on l'a dit, il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Oh, c'est un beau verset, hein. Ça veut dire que, voilà, il y a de l'abondance. Je peux venir. Le salut est gratuit, le salut est abondant. Mais il suffit que je vienne à lui et que je m'abandonne entre ses mains. En effet, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je peux le dire, Seigneur, je vois ma misère. Je vois ma saleté, je vois que je suis pourri, il n'y a rien de bon en moi. Des fois, il y a cette honte. Et puis dire, Seigneur, aie pitié de moi. Comme le publicain, aie pitié de moi. N'ose pas regarder au ciel, aie pitié de moi. Sauve-moi, Seigneur. Et le Seigneur le fait. C'est formidable. Mais il faut venir à lui, lui dire, voilà. Et vous savez, pour nous chrétiens, tous les jours on a besoin de lui. C'est pas, tiens, aujourd'hui, j'étais justifié à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il n'y a plus de problème. Mais des fois, on retombe dans le piège. On essaye de nous améliorer par nos propres efforts. Mais on a besoin de lui. Et des fois, la parole, elle est là. Oh, alors ce matin, oh, ça m'a parlé, ça m'a fait mal. Ou il y a des fois, on lit la Bible. Oh là là. Oui. Mais Seigneur, oui, je vois que j'ai besoin de ta grâce. Et ça veut dire que ça nous rend dépendants de lui. Jour après jour, nous avons besoin de sa grâce. Jour après jour, nous avons besoin de son pardon. Et c'est ça la vie chrétienne. Dire voilà, c'est lui qui me justifie. C'est lui qui me justifie. Et c'est lui qui me déclare juste parce qu'il a tout fait. On peut prier. Avoir un petit moment de silence et puis on va prier. Et je finirai par la prière.